Voici le Vésuve, hier encore verdoyant sous l'ombre des pampres, ce noble raisin qui emplissait les cuves à ras-bord. Ces monts que Bacchus aimait plus que les collines de Nysa, cette montagne où le cœur des satyres jadis dansait ses rondes. C'était le séjour de Vénus, plus agréable à ses yeux que Sparte. C'était le lieu célèbre par le nom d'Hercule. Tout est envahi par les flammes et recouvert d'une cendre noire. Et les dieux eux-mêmes auraient voulu que cela ne leur fût pas permis. Poème de Martial, écrivain romain, épigramme, livre 4.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En ce premier siècle après Jésus-Christ, la ville de Pompéi est une agréable ville de la campagne de Campanie, pas très loin de Naples. Cette cité a été fondée par les Osques, mais les Étrusques, au VIe siècle, l'ont dominée et ont construit un premier rempart. Elle a été conquise par les Samnites en 425, puis par les Romains en 290. Elle se montra fidèle d'ailleurs à Rome durant la Seconde Guerre punique, malgré le danger que faisait peser Hannibal, le général carthaginois. En 80 avant Jésus-Christ, Sylla l'a honorée en la faisant d'elle une colonie romaine. Ses habitants étaient désormais des citoyens romains. Cette cité est habitée d'environ 30 000 habitants. Elle couvre 66 hectares et elle est indéniablement prospère grâce à une activité maritime et à une activité agricole qui se développe sur les pentes du Vésuve et tout autour de la cité. Aujourd'hui encore, la voie de l'abondance nous montre des commerces qui devaient vivre de manière assez satisfaisante. Comme toutes les villes romaines, Pompéi bénéficie d'infrastructures classiques mais ô combien agréables. Elle dispose d'un théâtre, d'une caserne des gladiateurs, d'un amphithéâtre, de plusieurs temples. Certains sont dédiés à des empereurs comme le temple d'Auguste ou le temple de Vespasien, d'autres à des dieux traditionnels comme Apollon. Elle a également un grand forum où la ville se donne rendez-vous pour parler affaires, pour parler justice, pour parler politique. Elle dispose aussi de maisons closes, où les prostituées indiquent par des peintures suggestives leur spécialité. Et puis, on a retrouvé également de superbes villas et maisons. La maison de Castor et Pollux, appelée ainsi parce qu'on a retrouvé les statues de ces Dioscures. La maison de Lucius Caius Jucundus, un grand notable de Pompéi. La maison du Faune, avec la superbe mosaïque de la bataille d'Issos, où est représenté Alexandre le Grand et qui se trouve aujourd'hui au musée archéologique de Naples. La maison de Ménandre. Et puis, autour de la ville, de grandes villas suburbaines. La villa de Diomède, et puis surtout la Villa des Mystères, avec cette extraordinaire peinture que les érudits essayent de comprendre et de saisir au mieux. Pour Paul Veyne, il s'agit de la préparation d'un riche mariage. Pour Gilles Sauron, il s'agit plutôt de l'initiation au culte de Bacchus. Quoi qu'il en soit, cette peinture montre la richesse de ces grands notables pompéiens. Or, sans le savoir, Pompéi est en train de vivre ses derniers instants en cette année 79 après Jésus-Christ. Effectivement, Pompéi est construite autour d'un volcan, mais personne ne le sait. Parce que le Vésuve est calme depuis si longtemps que la mémoire humaine a complètement oublié le danger qu'il peut représenter. En 62, il y a bien eu une alerte, un tremblement de terre qui nous est signalé d'ailleurs par Sénèque et que les archéologues ont réussi à repérer dans les fouilles qu'ils ont pu faire à partir du 18e, 19e siècle. Mais bien sûr, ce qui va être le drame de la cité, c'est l'explosion du Vésuve lui-même. Nous bénéficions d'un document exceptionnel sur le plan littéraire, une lettre de Pline le Jeune, écrite au grand historien Tacite, avec qui il avait des liens d'amitié, et où Pline raconte directement, parce qu'il était lui-même devant la ville au moment de l'explosion, l'explosion du Vésuve et la mort de son oncle Pline l'Ancien. Écoutons donc Pline le Jeune. Mon oncle se trouvait à Misène et commandait la flotte en personne. Le 9, avant les calendes de septembre, aux environs de la 7e heure, ma mère lui apprend qu'on voit un nuage extraordinaire par sa grandeur et son aspect. Il venait de prendre son bain de soleil, puis d'eau froide. Il avait fait un repas léger, étendu sur son lit, et y travaillait. Il demande ses chaussures, monte à l'endroit dont on pouvait le mieux contempler le phénomène en question. Une nuée se formait. On ne pouvait pas bien voir, de loin, de quelle montagne elle sortait. On sut ensuite que c'était du Vésuve. Cette fumée avait l'aspect et la forme d'un arbre et faisait penser surtout à un pin. Car, après s'être dressée à la manière d'un tronc fort allongé, elle déployait comme des rameaux, ayant été d'abord, je suppose, portée en haut par la colonne d'air au moment où elle avait pris naissance, puis cette colonne étant retombée, abandonnée à elle-même ou cédant à son propre poids, elle s'évanouissait en s'élargissant. Par endroits, elle était d'un blanc brillant, ailleurs poussiéreuse et tachetée par l'effet de la terre et de la cendre qu'elle avait emportée. Pendant ce temps, le sommet du mont Vésuve brillait sur plusieurs points de larges flammes et de grandes colonnes de feu dont la rougeur et l'éclat étaient avivés par l'obscurité de la nuit. Mon oncle répétait que des foyers laissés allumés par les paysans dans leur fuite hâtive et des villas abandonnées brûlées dans la solitude, voulant par là calmer les craintes. Des tremblements de terre fréquents et amples agitaient les maisons qui semblaient arrachées à leurs fondements et oscillaient dans un sens puis dans l'autre. À l'air libre, en retour, tombaient des fragments de pierre ponce, légers et poreux, il est vrai, mais qu'on redoutait. C'est à quoi on se résigna après la comparaison des dangers. Chez mon oncle, triompha le meilleur des deux points de vue. Chez les autres, la plus grande des deux peurs. Ils mettent des oreillers sur leur tête et les attachent avec des linges. Ce fut leur protection contre ceux qui tombaient du ciel. Déjà, le jour était levé partout, mais autour d'eux, une nuit plus épaisse que toute autre nuit et qu'atténuait pourtant une foule de feux et de lumières de toutes sortes. On résolut d'aller sur le rivage et de voir de près s'il était maintenant possible de prendre la mer. Mais elle était encore grosse et redoutable. Là, on étendit un linge sur lequel mon oncle se coucha. Il demanda à plusieurs reprises l'eau fraîche et en but. Ensuite, les flammes et l'odeur de soufre qui les annonçaient font fuir ses compagnons et le réveillent. Il s'appuie sur deux esclaves pour se lever et retombe immédiatement. Je suppose que l'air épaissi par la cendre avait obstrué sa respiration et fermé son larynx. Quand le jour revint, son corps fut retrouvé intact, en parfait état, et couvert des vêtements qu'il avait mis à son départ. Son aspect était celui d'un homme endormi plutôt que d'un mort. Le texte de Pline le Jeune est très intéressant parce qu'il nous indique, outre la mort, par curiosité scientifique de son oncle Pline l'Ancien, les conditions qui ont détruit la ville et une partie de la population. Certes donc, le Vésuve a bien connu une explosion et il est fort probable que, avant l'arrivée d'une nuée ardente, les gaz et les cendres, peut-être même aussi les pierres ponces qui étaient projetées par le volcan, aient pu provoquer de nombreux morts. À ce jour, ont été retrouvés à Pompéi et Herculanum environ 1500 victimes, mais il n'est pas interdit de penser qu'il y en avait plus. En plus de l'explosion du volcan, la mer s'est elle-même agitée. Et il y a eu sans doute un phénomène de tsunami qui a finalement empêché les fuyards de prendre la mer car elle était beaucoup trop démontée. Ainsi, Pompéi a été détruite en 79 après Jésus-Christ. Reste à savoir la date exacte. Pendant très longtemps, on a évoqué la date du 24 août 79, comme l'indique d'ailleurs la lettre de Pline. Mais un graffito retrouvé récemment évoque le 16e jour avant les calendes de novembre, ce qui correspond au 24 octobre 79. De plus, des recherches archéologiques ont montré la présence de fruits d'automne, des noix, des figues, des châtaignes, des grenades, qui semblent bien indiquer que l'explosion a surpris la ville non pas en plein été, mais en plein automne. La ville a ensuite disparu de la conscience et de la mémoire des hommes. Il fallut attendre le début du XVIIIe siècle pour que les premières fouilles y soient menées.